Vous êtes bien sur Radio Orient, votre magazine d'information. Nawel El Amouchi. Au cinquième jour de la confrontation militaire entre l'Iran et Israël, l'Iran a affirmé avoir détruit des cibles stratégiques en Israël à l'aide de drones. L'armée israélienne a annoncé avoir tué le plus important commandant militaire iranien. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé à la retenue, à la désescalade et à l'arrêt des frappes des deux côtés. Toujours au Proche-Orient, à Gaza, au moins 50 personnes ont été tuées et près de 200 ont été blessées près d'un centre de distribution de nourriture dans le sud de l'enclave, à Khan Younes, selon la défense civile. Et en France, à quelques heures de la fin prévue du conclave sur les retraites impulsée par François Bayrou, les négociations entre partenaires sociaux ne progressent pas, ont indiqué aujourd'hui les participants à la mi-journée, avant de reprendre les débats cet après-midi. Dans notre point actualité, tout d'abord au cinquième jour de la confrontation militaire entre Israël et l'Iran, Israël a annoncé avoir tué un haut gradé iranien dans une frappe nocturne. L'Iran a affirmé avoir détruit des cibles stratégiques sur le territoire israélien et frappé un centre du Mossad. En début d'après-midi, deux puissantes détonations ont été entendues depuis le centre et le nord de la capitale Téhéran. Et les dirigeants du G7 réunis au Canada ont réitéré leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont pointé l'Iran comme principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Et les chefs d'État ont réaffirmé le droit d'Israël à se défendre. Et le président américain Donald Trump, qui a quitté le G7, a affirmé, lui, vouloir une fin réelle et pas seulement un cessez-le-feu. On reste au Proche-Orient, à Gaza. Au moins 50 personnes ont été tuées et près de 200 ont été blessées près d'un centre de distribution de nourriture dans le sud de l'enclave, à Khan Younes, selon la défense civile. En France, des syndicats, associations, ONG et responsables de gauche ont appelé ce matin d'une même voix lors d'une conférence de presse à la reconnaissance d'un État palestinien, un impératif moral qui ne doit plus être différé, selon leurs mots. En Ukraine maintenant, au moins 14 personnes, dont un citoyen américain, ont été tuées à Kiev dans la nuit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l'une des pires attaques russes contre la capitale depuis le début de la guerre. L'armée russe a quant à elle affirmé avoir frappé des infrastructures militaires et industrielles. Et enfin, l'actualité en France, c'est le dernier jour du conclave sur les retraites. Les partenaires sociaux doivent se mettre d'accord aujourd'hui sur des aménagements de la réforme des retraites très contestée de 2023, qui porte progressivement l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Mais les négociations entre partenaires sociaux ne progressent pas, ont indiqué les participants à la mi-journée, avant de reprendre les débats cet après-midi. Sans accord entre les partenaires sociaux qui peinent à s'entendre, la loi d'Elisabeth Borne s'appliquera, a redit aujourd'hui le Premier ministre François Bayrou, qui s'était engagé à saisir le Parlement en cas d'accord, même partiel. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au tour d'horizon de l'actualité. Sur la guerre entre l'Iran et Israël, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot s'est exprimé ce mardi à l'Assemblée nationale. Il a appelé à la retenue, à la désescalade et à l'arrêt des frappes des deux côtés. On l'écoute.
La voix de la France, elle est claire, elle est forte. C'est la paix et c'est la sécurité pour tous. Et cette position, elle repose sur un double refus. Le refus de voir Gaza occupée, la Cisjordanie colonisée, le Hamas continuer à détenir les otages dans les tunnels de Gaza et l'aide humanitaire bloquée à l'entrée de Gaza avec une population affamée. Et c'est pourquoi, même si nous avons dû la reporter pour des raisons logistiques et sécuritaires, nous restons déterminés à tenir cette conférence pour la solution à deux États qui a enclenché une dynamique désormais inarrêtable qui va nous conduire à reconnaître l'État de Palestine. Le deuxième refus, c'est celui d'un Iran nucléaire qui fait, comme vous l'avez dit, peser un danger existentiel sur Israël, la région, mais aussi sur l'Europe. Mais c'est un problème que l'on ne peut régler que par la négociation, comme nous l'avons fait, vous l'avez dit, sous l'autorité du président Hollande il y a 10 ans, en étant plus exigeant que nos partenaires américains et en obtenant des concessions significatives de l'Iran. Un accord qui, c'est vrai, a été fragilisé quelques années plus tard lorsque les États-Unis s'en sont retirés. Mais force est de constater que la négociation reste encore aujourd'hui la seule manière d'aboutir à un retour en arrière du programme nucléaire et balistique iranien. C'est pourquoi nous appelons à la retenue, à la désescalade et à l'arrêt des frappes des deux côté, que nous appelons au retour à la négociation. C'est ce que j'ai dit à mon collègue iranien, c'est ce que j'ai dit à mon collègue israélien, c'est ce que j'ai dit à mon collègue américain. Et je leur ai dit aussi que de la même manière qu'il y a 10 ans, ce sont les Français, les Allemands et les Britanniques qui avaient trouvé la solution, eh bien nous nous tenons prêts à apporter notre compétence, notre expérience et notre constance pour mener ces discussions avec les parties prenantes.
C'était Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Il y a un soutien de principe de la France à Israël, selon les mots du porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, ce mardi, chez nos confrères de France Info. Réaction au micro de François-Xavier de Calonne, de Karim Amelal, dont la mission d'ambassadeur de la France pour la Méditerranée vient de prendre fin. On l'écoute.
C'est un soutien de principe, vous le rappelez, c'est important parce que il n'y a pas de soutien opérationnel à cette intervention unilatérale qu'Israël mène actuellement en Iran. Bon, je comprends évidemment les raisons de ce soutien de principe. Israël est l'allié de la France dans la région et de façon générale. Néanmoins, il faut bien constater que, comme à Gaza, cette intervention unilatérale, je le redis, c'est une opération qui est contraire au droit international. Donc on ne peut pas d'un côté affirmer la primauté du droit international et dire sans arrêt que le droit international doit s'appliquer coûte que coûte, et d'un autre côté, comme en Iran et comme à Gaza, eh bien, considérer que le droit international doit être mis entre parenthèses.
Et justement, jusqu'où la France doit-elle soutenir Israël ?
Il faut, à un moment ou un autre, constater qu'Israël, aujourd'hui, est un État qui ne se comporte pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, de façon adéquate par rapport aux principes et aux valeurs que la France et que l'Union européenne tout entière d'ailleurs, et que même le monde occidental érige en normes. Et que vient le moment, et je crois que nous l'avons certainement dépassé, où la France et l'Union européenne et un certain nombre d'autres États qui précisément se retranchent bien souvent derrière la primauté du droit international, eh bien doivent prendre un certain nombre de mesures et en tout cas cesser de soutenir de façon inconditionnelle. Ça n'est pas le cas de la France à nouveau, mais en tout cas cesser de soutenir Israël, les opérations que mène Israël et à Gaza et en Iran, étant entendu que la France s'est engagée dans un processus de négociation avec l'Iran il y a de ça plusieurs années. Ça a donné lieu au JCPOA, un accord qui a été endossé par l'ensemble des parties, y compris par l'Iran, y compris par les États-Unis, et que Donald Trump, lors de son premier mandat, a lui-même mis entre parenthèses, ou en tout cas décidé de détruire finalement. Et donc la France, qui s'est engagée dans ce processus, qui s'est engagée dans un processus de négociation, eh bien aurait tout intérêt effectivement à y revenir. C'est ce que le président de la République, j'observe, a dit d'ailleurs depuis le Canada, où il se trouve pour participer au G7. Et donc je crois que c'est ce type de processus multilatéral dans le cadre du droit international qui doit prévaloir et sûrement pas des interventions unilatérales, brutales, qui d'ailleurs...
Unilatérales, hein, avec un soutien très actif et concret des États-Unis.
Bien sûr, naturellement, qui n'est pas sans limite non plus, hein, puisque on le sait, les principaux sites où l'on dit que l'Iran mène des opérations visant à acquérir la bombe nucléaire, qui sont très souterrains, qui sont à plusieurs dizaines de mètres sous la terre, nécessitent l'intervention des États-Unis, qui n'a pas eu lieu jusque-là.
C'était Karim Amelal, dont la mission d'ambassadeur de la France pour la Méditerranée vient de prendre fin. Il est l'invité de notre rendez-vous pluriel. Et les marchés pétroliers restent suspendus à l'évolution du conflit entre Israël et l'Iran. Si les cours du brut se stabilisent, un point cristallise toutes les inquiétudes. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour un tiers du pétrole mondial. Toute perturbation y ferait flamber les prix. Une hypothèse pour l'instant peu vraisemblable selon Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS. On l'écoute.
Le détroit d'Ormuz est effectivement l'un des détroits les plus stratégiques au monde, avec une forte odeur de pétrole. par ce détroit passent chaque jour des navires pétroliers qu'on appelle des tankers, qui transportent actuellement environ 20 millions de barils de pétrole, 20 millions de barils par jour de pétrole brut et de produits raffinés. Il faut savoir que 20 millions de barils par jour, cela représente à peu près le cinquième de la consommation pétrolière mondiale, donc c'est considérable. Si le détroit d'Ormuz était bloqué, et ma phrase commence par un « si », les prix du pétrole flamberaient. Ce ne serait pas seulement une augmentation, ce serait une flambée des prix, ce qui est complètement différent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est évidemment un sujet que les opérateurs pétroliers, les traders, suivent de très près. Ce n'est pas forcément une hypothèse, à mon avis, très vraisemblable. Parce que bloquer le détroit d'Ormuz pour l'Iran, ce serait prendre des risques énormes, d'abord pour sa sécurité, pour la survie du régime, parce qu'un blocage du détroit d'Ormuz entraînerait très probablement une intervention militaire américaine, en plus de celle d'Israël, et l'Iran a déjà suffisamment de mal à faire face aux attaques israéliennes depuis la nuit du 12 au 13 juin. Bloquer le détroit d'Ormuz ferait que l'Iran ne pourrait quasiment plus exporter de pétrole, alors que le pétrole est essentiel pour l'économie iranienne, pour l'État iranien, pour la survie du régime. Et bloquer le détroit d'Ormuz empêcherait la République populaire de Chine d'importer du pétrole du Moyen-Orient, que ce soit de l'Iran ou des pays arabes du Golfe, ce qui mécontenterait les responsables chinois, alors que la Chine soutient l'Iran, d'une part en achetant la plus grosse partie des exportations iraniennes de pétrole, et d'autre part en étant un soutien politique. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi, dans la situation actuelle, les dirigeants iraniens, au-delà des menaces, et les menaces de blocage du détroit d'Ormuz, on en entend depuis des années et des années de la part de l'Iran, sans qu'il ne passe à l'acte. Mais je ne vois pas pourquoi il le ferait, ce serait absurde et suicidaire, et les dirigeants iraniens ne sont ni absurdes ni suicidaires. Le seul élément, à mon avis, qui pourrait déclencher cet acte extrême, ce serait si le régime pense qu'il a un risque imminent de chuter. Ce qui n'est pas le cas au moment où nous parlons, les frappes israéliennes affaiblissent encore l'Iran, qui a déjà été fortement affaibli depuis octobre 2023, mais cela ne veut pas dire que le régime est sur le point de tomber. Donc j'écarterais pour moi ce scénario, mais ce scénario est quand même évoqué sur les marchés pétroliers et agite évidemment les traders sur les marchés pétroliers à Londres, à New York, à Singapour et ailleurs.
Dans un tout autre volet maintenant sur le droit des femmes et des minorités, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face à un retour de bâton. Les précisions avec vous, Salma Dakhlaoui.
Le haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé lundi un inquiétant retour de bâton contre les droits des femmes et des minorités à travers le monde. À l'ouverture de la session du Conseil des droits de l'homme à Genève, Volker Türk a pointé du doigt la montée des attaques contre les programmes de diversité, notamment aux États-Unis, où l'administration Trump a déclaré illégaux les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion au sein de l'État fédéral, menaçant même de poursuivre les entreprises qui continueraient à les appliquer. Mais ce recul ne se limite pas à l'Amérique. Selon Volker Türk, les groupes vulnérables sont devenus des boucs émissaires, victimes de fausses représentations et de décisions stratégiques qui sapent leurs droits. Il a également dénoncé la persistance du racisme, citant les violences policières disproportionnées subies par les personnes d'ascendance africaine au Brésil, aux États-Unis et ailleurs. Les femmes, elles, continuent de subir plus de deux fois plus de discrimination que les hommes. Le haut-commissaire plaide pour des quotas de représentation politique afin de rétablir l'équilibre. Volker Türk s'est aussi inquiété des restrictions sur les droits reproductifs des femmes en Russie et aux États-Unis, ainsi que des lois qui limitent la liberté des femmes et des filles en Iran et en Afghanistan. Enfin, il a dénoncé les violences et discours de haine visant les personnes LGBT+, notamment en Afrique de l'Ouest, en Argentine et aux États-Unis, où des propos diffamatoires et des lois restrictives se multiplient. Face à cette vague de régression, il appelle les autorités à respecter le droit de manifester pacifiquement et à défendre les droits humains sans recourir à la force.
Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.